France Inter.
Anthropologue, ancien co-directeur de la revue L'Homme et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Grégory Delaplace est aussi membre du laboratoire de recherche Groupe, Société, Religion, Laïcité. Après la publication des essais L'Invention des Morts, Sépultures, Fantômes et Photographies en Mongolie contemporaine et Les Intelligences particulières enquêtent dans les maisons hantées, il continue de creuser l'anthropologie de l'invisible avec son nouvel ouvrage La voix des fantômes quand débordent les morts, tout juste paru au seuil dans la collection La couleur des idées. Une passionnante mise en perspective des rituels funéraires remarquables de l'Amérique du Sud à l'Asie orientale. On y apprend que les morts peuvent se soustraire à la place que les vivants souhaitent leur assigner et s'en affranchissent en se glissant parfois dans des interstices où personne ne s'attend à les croiser. La version française du titre du film de 1941 « Here comes Mr. Jordan » d'Alexandre Hall décrit la chose parfaitement en trois mots, le défunt récalcitrant. Voilà le sujet de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Grégory Delaplace.
Bonsoir Eva Bester.
Qu'est-ce qui vous a le plus préoccupé aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai été beaucoup préoccupé par la magie, les questions de magie. En fait.
Ah oui ?
Oui, c'est...
Gérard Majax ou autre magie ?
Alors, entre autres, mais surtout la question de l'anthropologie de la magie et les conditions de possibilité d'action à distance. À quelles conditions
la
on
télékinésie.
Peut voilà, se rendre capable ou rendre capable quelqu'un, collectivement, d'agir à distance sur le monde. C'est le thème de mes recherches maintenant, et c'est sur ça que je vais enseigner dans mon séminaire, donc c'est en ce moment que je le prépare.
Ah, c'est passionnant. Pour parler justement de périphérie par rapport à ce sur quoi on va se concentrer dans quelques minutes, vous avez aussi coordonné le cahier de Lerne consacré à Philippe Descola, qu'on va bientôt recevoir d'ailleurs dans cette émission.
Oui, c'était vraiment un plaisir de faire ça. Ça m'a permis de mieux approfondir la pensée de Philippe Descola et d'essayer de la présenter au grand public, de réunir des témoignages sur son œuvre et de aussi présenter des inédits. Alors, bon, je laisse la surprise pour les lecteurs et les lectrices.
Vous avez été membre junior de l'Institut universitaire de France. Qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, ça signifie qu'on a beaucoup plus de temps que ses collègues pour faire de la recherche, pour écrire, puisque c'est un système qui, sur 5 ans, vous donne un petit peu d'argent et surtout une décharge de cours quand vous êtes maître de conférence ou professeur à l'université. Vous êtes aussi, si vous voulez, décharger des charges administratives. Donc, vous avez plus de temps pour avancer dans vos recherches. Donc, pendant 5 ans, j'ai pu visiter des archives, retourner sur le terrain en Mongolie et puis écrire surtout. Donc, c'est grâce à cet Institut universitaire de France que j'ai pu écrire les intelligences particulières.
Et avant cela, comme les athlètes, vous avez une médaille de bronze du CNRS.
Voilà, oui, c'est un peu bizarre en effet, parce que l'anthropologie, c'est pas un sport de combat, et pourtant on donne des médailles. Donc oui, bah c'est un signe de reconnaissance et je l'ai pris comme ça.
Alors, on dit parfois que plus on apprend, plus on se rend compte de l'étendue de ce qu'on ne sait pas. Grégory Delaplace, en savez-vous plus ou moins à mesure que vous creusez le sujet des fantômes dont on tentera d'esquisser des définitions un peu plus tard ?
Oui, c'est ça. En fait, avancer dans un sujet de recherche, en anthropologie en tout cas, peut-être partout, c'est un peu organiser son ignorance, quoi. Et donc, je pense que j'ai réussi à peu près, avec cet essai, à organiser ce que je ne savais pas et à poser le problème d'une manière qui permettait d'accueillir ensuite tout ce qui pourrait venir et que je ne sais pas encore, quoi.
Et vous en savez plus ?
J'en sais un petit peu plus parce que ça m'a permis de relire aussi les travaux de mes collègues, tout ce qui pouvait se publier sur le funéraire, les fantômes. Et c'est toujours agréable de se poser à une table et puis de faire le point un petit peu sur ce qui se fait dans un champ. Et j'avais l'impression de connaître le champ des fantômes parce que c'était quelque chose sur lequel j'avais travaillé depuis une bonne 20aine d'années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de références que j'avais pas eu le temps de lire, en fait, tout simplement, et dont la lecture a complètement redirigé mes travaux. Par exemple, le travail d'Éric Mugler sur les lolopos du sud-ouest du Yunnan. Travail fantastique. Malheureusement pas traduit en français, mais
non, mais vous parlez dans ce livre. On va y venir, forcément.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Grégory Delaplace, vous êtes anthropologue et je crois que les inspirations et premiers rêves d'altérité viennent d'une tante qui exerçait le même métier.
Oui, tout à fait. Ma tante, Nathalie Pétèche, qui est ethnologue et spécialiste de l'Amazonie, qui a beaucoup travaillé auprès des populations Karaja. Et en effet, ses récits de terrain, son travail d'ethnologue, ses voyages ont un peu habité mon enfance. Je me souviens de moments où j'attendais à l'aéroport qu'elle rentre du Brésil. Ensuite, il y avait les soirées diapo de Noël qui étaient en fait très intéressantes.
Pour une fois.
Voilà, c'est ça. Et ces récits de comment vivaient les enfants de mon âge dans la forêt amazonienne, qui assez tôt en fait m'ont converti à une espèce de relativisme militant où j'étais le premier à expliquer à mes amis que, en fait, ce qu'ils pensaient évident, eh ben, ça n'avait aucune évidence. Et puis, les vêtements, eh ben, en fait, on ne les portait pas pareil partout et qu'on pouvait manger de la tortue, etc.
Vous étiez en avance sur nous tous.
Enfin, j'étais un petit peu agaçant. Hein, mais après, ça, une fois que ce premier truc est passé et que, j'allais au lycée, je me suis projeté dans une carrière, en fait, rapidement, je me suis rendu compte que c'était ce travail que j'avais envie de faire, en fait, que c'était de l'anthropologie. Alors, avec l'idée que j'avais pas envie de le faire en Amazonie, quoi. Et pourtant, je suis resté vraiment un amazoniste de cœur, c'est-à-dire que l'ethnographie amazonienne me passionne.
Claude Lévi-Strauss, ma première question est somme toute logique. Qu'est-ce que l'ethnologie ? À quoi servent les ethnologues ? Et au fond, à quoi a servi et à quoi sert Claude Lévi-Strauss ?
Oui, la dernière, je me chargerai pas de répondre. Mais à quoi sert l'ethnologie en général ? Et vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Si on veut comprendre l'homme, on peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger.
Claude Lévi-Strauss au micro de Bernard Pivot en 1984 dans Apostrophe. Grégory Delaplace, vous avez fait une prépa littéraire qui ne vous a pas passionné, à part tout ce qui vous amenait au plus près de l'ethnologie comme race et histoire de Lévi-Strauss qui a confirmé votre vocation. Ensuite, inscription en anthropologie à Nanterre. Est-ce que vous connaissez mieux les êtres humains ou est-ce qu'ils vous surprennent toujours autant ?
Oh bah heureusement, ils me surprennent, ouais. Sinon je m'ennuierais dans mon métier, en fait. Et ils sont surprenants pour tout le monde, mais c'est vrai que si on en restait à cette surprise, si on en restait à une espèce d'étonnement permanent face à la relativité des manières de faire, bah on n'irait pas bien loin dans l'ethnographie. Hein. L'ethnographie, c'est aussi un exercice de traduction, c'est-à-dire c'est un exercice qui vise à prendre la mesure d'une distance culturelle qui parfois est très proche, faudra revenir sur la définition de Lévi-Strauss, une distance culturelle qui parfois est très proche, mais prendre cette mesure pour ensuite essayer de retisser une compréhension du monde qui puisse l'intégrer, en fait. Puisqu'il ne s'agit pas de décrire quelque chose de distant et d'autre, il s'agit comprendre l'unité du monde qui puisse intégrer cette altérité, puisque tout est un problème humain, en fait. Tout ce qu'on peut décrire relève de problèmes humains qu'il faut arriver à mettre en relief pour mieux, pas décrire l'altérité, en fait, mais mettre en série les différentes manières de faire des humains à travers les époques et à travers le monde.
Alors vous, votre premier voyage en Mongolie, c'était en 1998, et alors vous avez passé plusieurs années avec des pasteurs nomades, où vous faisiez des tâches pastorales qui n'étaient pas si faciles que ça. Vous êtes senti plus à l'aise en bûcheron ou en lutteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça?
Ouais, ben on a tous des compétences qu'on découvre, qu'on découvre qu'on n'a pas aussi. Donc, je suis un très mauvais berger.
Pourquoi?
Je sais que, ben parce que les tâches pastorales, j'ai pas de prédisposition. Déjà par mon éducation, hein, je suis un petit garçon de la ville, donc j'ai grandi à Paris. Donc, la première fois que je me suis retrouvé avec des pasteurs nomades, j'avais pas de compétences à offrir en fait. Ce qui est en fait assez triste comme constat. Mais j'étais jeune et raisonnablement en bonne santé, et donc couper du bois, scier, et puis faire de la lutte. J'avais fait un petit peu de judo dans mon enfance, donc c'est des choses sur lesquelles je pouvais mieux participer. Faire de la lutte, c'est important. Quand on est un jeune homme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'entre dans la cohorte des jeunes hommes, on fait au quotidien. L'important, c'est pas de gagner, l'important, c'est de lutter. Ça, c'est quelque chose que Roberta Magnon, ma directrice de thèse, sur lequel elle insistait beaucoup, c'est-à-dire que le jeu, c'est pas forcément quelque chose qui vise à ce qu'un meilleur soit choisi, puisse prévaloir sur les autres. Lutter, comme tout un tas d'autres jeux, c'est entretenir une certaine force vitale qui traverse les humains et que vous stimulez en luttant notamment. Et donc les jeunes luttent. Les jeunes luttent, ils luttent aussi pour se faire bien voir des femmes, des jeunes femmes, surtout quand ils ne sont pas mariés. Mais plus généralement, on lutte parce que c'est bien de lutter. C'est une bonne manière d'habiter le paysage des montagnes dans lesquelles ces pasteurs nomades vivent.
Alors pourquoi avoir choisi la Mongolie et il paraît que vous avez appris le mongol?
Ah oui, bah ça c'est indispensable.
Vous pouvez dire quelques mots? N'importe quoi.
Teget mongol ryugehe inget ta harilarku vahwa ta harilarku eba ewalbi yuj kilekchatkuen yaltsak vahku.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je ne sais pas trop quoi dire, surtout si vous ne répondez pas, parce qu'il n'y a pas de conversation. En fait.
Oui, c'est comme la lutte, il faut quelqu'un. Sauf que Jacob, avec l'ange, on ne sait toujours pas. D'ailleurs, on va beaucoup parler de choses où la réponse finale, ce sera « on ne sait toujours pas ouais. », puisqu'on va parler des rites funéraires qui vous intéressent. Et alors justement, commençons par la Mongolie, puisqu'ils avaient une tradition qui, pour nous, pourrait paraître vraiment très surprenante. Une tradition qui a été interdite sous le communisme. Je vous laisse raconter.
Oui, les rituels funéraires emblématiques du début du XXe siècle, c'est le dépôt des morts sur le sol, avec assez peu d'éléments, peut-être un linceul, des drapeaux de prière, mais de façon à ce que le corps soit dévoré par les animaux, dispersé par les éléments, et que tout disparaisse, en fait. Tout sauf, en fait, une pierre qui, ironiquement, s'appelle Pierre Marc. Or, elle n'est pas du tout inscrite, il n'y a pas de nom. C'est une pierre qui, rapidement, peut se perdre dans le paysage, sauf quand on sait qu'il y a eu une sépulture. Donc, c'est une pierre qui permet de rappeler à ceux qui ont installé le mort que c'était là qu'ils ont installé le mort. Sinon, si vous n'avez pas participé aux funérailles, vous vous dites « Ah, ça, c'est peut-être une pierre funéraire, mais il n'y a rien d'autre qui vous dira ce que c'est. » Donc, une pierre marque qui ne marque pas grand-chose, quoi. Mais c'est une pratique qui, au moment où les élites mongoles se sont formées en Russie, ou en tout cas à l'école soviétique, ben, c'est une pratique qui a semblé arriérée, qui a semblé abominable, en fait. Et donc, qu'ils se sont entendus pour supprimer. Donc, il y a eu une réforme en Mongolie. C'est un des pays, un des moments où, tout d'un coup, un État décide de changer les rituels funéraires en disant à partir de dans deux semaines il faudra enterrer les morts et puis les déposer sur le sol. Et donc à partir de dans deux semaines vraiment on mettra des cimetières à la sortie des villes et puis on enterrera les morts dans des tombes.
Et c'est pas toujours respecté.
Mais ça a été bien adopté. C'est ça qui est étrange en fait. C'est-à-dire qu'en arrivant en Mongolie et en essayant de travailler sur les rituels funéraires, fallait répondre à ces deux énigmes. L'une, en fait, la réforme funéraire, ça a marché. On peut décider du jour au lendemain de changer les rituels funéraires. En fait, la plupart de la population dit « Ah bon, d'accord, ok, bon bah, on va enterrer les morts, finalement. » Et ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que, en fait, ça n'a pas marché partout.
J'ai j'ai pas pu m'en empêcher, Grégory Delaplace. C'est le générique de la série X-Files qui ravivera peut-être quelques nostalgies chez les auditeurs. Et c'est pas du tout de l'ironie, bien au contraire, c'est parce qu'on va parler justement de ce qu'on pourrait considérer comme surnaturel et de sujets non classés. Et votre précédent livre, c'était Les intelligences particulières, enquête dans les maisons hantées. Et moi, ça m'a fait penser, vous savez, au film d'horreur Conjuring, les dossiers Warren. Mm-hmm. Ce couple Warren qui existe vraiment, mm-hmm. qui justement allait enquêter sur, dans les maisons dont les habitants disaient qu'elles étaient hantées. Et mm-hmm. donc, je vous laisse raconter comment vous êtes tombé sur des documents qui font beaucoup penser au dossier Warren et qui est ce fameux Donald West.
Alors, donc, longue histoire à raconter, mais ce travail, je l'ai commencé en découvrant ces archives d'une société savante, la Société pour la Recherche Psychique, qui, depuis sa création, à la fin du 19e, a, entre autres activités, envoyé ses représentants pour enquêter dans des maisons hantées.
Société à Londres.
C'est une société créée à Londres, en effet. Donc une société cousine a été créée aux États-Unis, mais celle sur laquelle j'ai enquêté a été créée à Londres, et a constitué un fonds d'archives, d'enquêtes, dans des maisons hantées, où chaque cas est constitué d'un témoignage d'habitants ou de leur médecin traitant, par exemple, qui disent « Bon, dans cette maison, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas et il faudrait que vous veniez enquêter. Voilà ce qui s'est passé. » Donc, il y a tout un témoignage où c'est décrit l'apparition du fantôme, ou les bruits, les manifestations qui se passent. Mais est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est autre chose? La société est sollicitée pour aider les témoins à statuer sur ce dont il s'agit. Et donc, ce qui est fantastique dans ces archives, je m'attendais à trouver ces témoignages, et c'est pour ça que j'y allais, mais je ne m'attendais pas à trouver tout le processus d'enquête qui suivait.
Et d'ailleurs, Donald West, qui était aussi étudiant en médecine, donc très
voilà.
cartésien.
Et donc, il y a notamment ce personnage, Donald West, qui est en effet ce jeune étudiant en médecine, qui est assez sceptique sur les maisons hantées, pas sur la parapsychologie en général. Lui, ce qu'il veut prouver, c'est que la télépathie existe. Ça, il pense que vraiment, on est sur le point de pouvoir le prouver scientifiquement, en laboratoire. Par contre, les enquêtes dans les maisons hantées dans lesquelles il est envoyé, encore une fois, c'est un jeune médecin, il est employé par la société, il décide pas de ce qu'il fait, donc on l'envoie pour enquêter dans ces maisons hantées. Il le fait de façon méticuleuse, c'est pour ça qu'on peut reprendre ses rapports, mais il est agacé par le fait que les témoignages n'ont pas de valeur scientifique. Parce qu'on ne peut jamais distinguer qui a vu quoi, qui a pu parler à qui a influencé telle personne, et dans quel état psychologique chacun se trouve. Et donc, il dit « c'est un bourbier ». Il dit ça, c'est un bourbier, et c'est un bourbier duquel rien ne pourra sortir de probant en termes de recherche psychique. Donc, il milite pour abandonner les maisons hantées, et la Société pour la Recherche Psychique va s'éloigner des maisons hantées, où y retourner de façon un peu éloignée et de façon très ponctuelle, en se disant que c'est pas là qu'ils vont faire avancer leur science. Mais le deuxième opus de Conjuring, ça se passe dans la banlieue de Londres, c'est le cas célèbre de Enfield, et c'est un cas qui a été investigué par un représentant de la Société pour la Recherche Psychique, mais un représentant qui l'a fait un petit peu contre sa hiérarchie, parce que les représentants, sa hiérarchie disait « bon, en fait, qu'est-ce qu'on va encore faire dans les maisons hantées, ça ne sert à rien ?» Et lui disait « si, j'aimerais bien enquêter là-dessus ». La Société pour la Recherche Psychique est restée très, a pris ses distances, surtout par rapport au livre qui a été écrit par un journaliste avec cet enquêteur pour rendre compte de l'histoire et qui a été un best-seller. Et c'est pour ça que, du coup, maintenant, on connaît ce récit. En fait, ce récit et les enregistrements qui ont été faits par l'enquêteur pour psychique, qui est allé dans ces maisons, c'est ce récit qui a inspiré toute une série de films comme L'Exorciste, ou Poltergeist, le film produit par Spielberg de 82, je crois.
Bien sûr.
Et tout ça, c'est en fait inspiré de ce cas qui émane des marges de la recherche de la Société pour la Recherche Psychique, mais qui a été porté par un journaliste qui a su vendre ça comme un cas spectaculaire. Quoi.
Ouais, c'est passionnant. Alors évidemment, on a envie de vous poser la question, croyez-vous aux fantômes? Mais justement, vous le dites, Grégory Delaplace, vous ne vous êtes pas posé la question, ce n'est pas l'existence des fantômes qui vous intéresse, c'est leur façon d'exister.
Oui, tout à fait. Alors déjà, le fait que moi, je puisse croire aux fantômes ou pas, en tant qu'anthropologue, c'est presque pas pertinent. C'est-à-dire que c'est comme si vous demandez à quelqu'un qui étudie le bouddhisme, s'il est bouddhiste en fait, s'il fait de l'anthropologie du bouddhisme, le fait qu'il soit bouddhiste ne doit pas entrer en ligne de compte. Et on accepte qu'il soit bouddhiste ou qu'il le soit pas. Ça doit pas changer quoi que ce soit.
Mais on se dit quand même que si vous vous y intéressez autant...
C'est que j'y crois.
Bah peut-être. Mais après, on verra ce que c'est qu'un fantôme, d'ailleurs.
Bah, surtout, on verra, faut qu'on voit ce que c'est que la croyance. C'est-à-dire que on a tendance, nous, à envisager le problème des fantômes comme un problème de croyance. Or, c'est là que le bas blesse, c'est là que, d'emblée, on ne se met pas dans des conditions propices à comprendre ce dont il s'agit. Et c'est la proposition que je fais dans le livre, en fait, en essayant de reformuler quel problème posent les fantômes. Parce que c'est toujours un problème qui est difficile à formuler de façon générale. Les fantômes, c'est quoi? C'est des apparitions qui sont singulières, c'est quelqu'un qui voit un truc à un endroit, c'est une personne qui voit un truc et les autres disent « je sais pas si j'y crois, je sais pas si je crois pas ». Enfin, bref, socialement, ça a une consistance qui est très faible, qui est très friable en fait. Donc comment on fait une étude raisonnée, comparative, comment on met en série ces phénomènes pour pouvoir produire un propos général là-dessus? Ben, justement, pas en s'appuyant sur le concept le plus friable de tout ce qui est la croyance. Il faut arriver à déplacer le problème. Et c'est là où il me semble plus intéressant d'envisager les fantômes à partir de la figure du débordement, qui est une question d'engagement, en fait, qui n'est pas une question de positionnement intellectuel.
Comment ça, d'engagement ?
Ben, c'est-à-dire que quand vous vous trouvez face à un mort qui réclame votre attention, il n'est pas question de savoir ce que vous croyez ou pas, en fait, ça ne sert à rien. La question qu'il faut se poser, le problème qui se pose à vous, c'est quoi faire de ça?
Mais comment on peut savoir qu'on est face à un mort qui réclame de l'attention?
Vous vous trouvez en fait dans une situation où vous vous trouvez face à un phénomène que vous n'arrivez pas à expliquer, qui vous concerne directement, qui vous interpelle. Vous avez des bruits qui vous suivent, voyez une accumulation de signes qui évoquent une présence, et cette présence est là. Elle a l'air de ne pas vouloir bouger. Donc, il faut que vous trouviez un recours, justement. Il faut que vous vous adressiez à quelqu'un ou vous fassiez les conjectures qui vont vous permettre de comprendre ce dont il s'agit. Et si vous êtes dans une société où ces institutions existent, des spécialistes pourront vous dire c'est un mort ou c'est tel mort et donc il faut prendre telle mesure, quoi. Mais en fait, même quand il n'y a pas les institutions, vous pouvez vous trouver face à des présences de mort pour lesquelles la société dans laquelle vous êtes n'a pas de moyens culturels. Et là, vous vous trouvez dans une situation beaucoup plus complexe.
En fait, on touche à l'incontrôlable, donc c'est absolument fascinant.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
En fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cérémonies d'hommage quand tout le monde, certaines personnes viennent prendre la parole? Très souvent, les différentes personnes qui viennent prendre la parole et dire « Ah, tu te rappelles quand tu faisais ceci, oh, comme tu nous as bien fait rire, ou bien on se souviendra de toi pour ce que tu disais de ça », d'abord, on dit « tu », donc ça veut dire qu'on fait exister le mort pleinement et collectivement, mais surtout que la plupart des gens disent des choses que les autres ne savaient pas nécessairement. Et d'une certaine manière, en rassemblant tous ces discours, on va réunifier toutes les facettes en redensifiant en quelque sorte la personne du mort. Et je pense que c'est quelque chose qui va préparer ce que j'appellerais le destin posthume du mort. Et chacun va repartir finalement avec un mort avec lequel il pourra vivre. Sa personnalité sera enrichie, densifiée, plus complète, qui fait que ce mort aura probablement une vie auprès des vivants qui sera d'une qualité... Allez, il y a comme une promotion dans l'existence, voilà.
On ne sait pas si les fantômes existent, mais en tout cas, les morts s'immiscent sans cesse dans la vie des vivants. Grégory Delaplace, on entend la philosophe belge Vinciane Després dans Les idées larges sur Arte en 2022. Elle est l'auteure d'Au bonheur des morts à l'œuvre, et elle a préfacé votre livre Les intelligences particulières. Il y a des histoires que vous ne parvenez pas à justifier de façon pragmatique, comme par exemple les morts qui sont susceptibles de guider leurs parents vivants vers leur reste abandonné.
Oui. Ça, c'est des récits que rapporte un ethnographe français, Paul Sorrentino, qui a beaucoup travaillé au Vietnam sur ce nouveau rituel qui est mis en place. en fait, avec la bénédiction de l'État, même l'État communiste, qui vise à retrouver les restes grâce aux moyens de la possession médiumnique. Alors, comment ça se passe ? Une famille qui veut retrouver des restes disparus de ces morts se réunit, il y a un maître de cérémonie qui est là, et à la suite d'une procédure et de parfois plusieurs séances, ben, un membre de la famille se met à être possédé par l'esprit du mort. Et c'est le mort lui-même qui va guider la famille vers un lieu. Alors parfois après une course effrénée, quoi, à travers les ronces, dans la nuit, tout ça. Et parfois c'est la grand-mère qui est possédée. Et elle court comme une folle à travers la plaine. Et elle s'arrête à un endroit. Et avec la voix du mort, elle dit « c'est là ».
Avec la voix du mort.
Ouais, ouais. Et donc, la famille creuse, et souvent, apparemment, dit Paul Sorrentino, souvent trouve des ossements qui vont donc réenterrer, auxquels ils vont donner les hommages qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent.
Alors là, justement, vous prenez des précautions, vous dites apparemment, mais c'est comme pour le divin, en fait, on ne saura jamais. Et c'est là que je vous pose enfin la question, qu'est-ce qu'un fantôme ? Puisque pour vous, Grégory Delaplace, il donne accès à une réalité politique, à un état de traumatisme après un conflit et à une configuration mémorielle de la société. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de définitions d'un fantôme.
C'est justement le problème de faire l'anthropologie d'un fantôme et de construire, comme c'est la question en fait, autour de laquelle on tourne depuis le début, c'est comment on construit un propos général sur le fantôme. Si justement c'est lié à différents contextes, si ça peut être appelé de différents noms et tout ça. Et c'est là où justement, comment on arrive à comprendre à travers ces contextes, comment on arrive à construire un concept de fantôme à travers ces contextes qui nous permettent de souligner une situation spécifique qui correspond à l'apparition du fantôme. Quel genre de situation dans les relations aux morts représente le fantôme ? Et c'est là où la notion de débordement est intéressante. C'est-à-dire que c'est ce dont Vinciane Després parle aussi. Toutes ces cérémonies qui visent à instaurer le mort comme un partenaire, hein, à le densifier, à lui donner une existence, à lui donner une compétence. On le dote d'affect, on le dote d'une capacité de parole, on le dote d'une biographie, on le modèle, en fait. Hein, on le modèle selon des besoins qu'on a, nous, en tant que vivants. On a besoin de lui donner une place. Hein. C'est un peu le sens commun de l'anthropologie de la mort, c'est les rituels funéraires servent à donner un sens à la mort, à la domestiquer, et tout ça. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit que les humains mettent en place une diversité de dispositifs pour façonner leur mort comme un certain type d'interlocuteur, eh bien, ce qui reste à dire, c'est que il n'y a aucune garantie que les morts se plient à ce que les vivants veulent que les morts soient. Les vivants ont beau essayer de densifier les morts et à leur donner un rôle, à les encourager à nous parler, ben, on peut vouloir que les morts nous parlent, il n'y a aucune garantie qu'ils viennent nous parler finalement. On peut vouloir qu'ils ne nous parlent plus jamais, il n'y a aucune garantie qu'ils ne se manifestent pas à nous. Et toutes ces situations arrivent et elles demandent à être traitées ethnographiquement. C'est ces situations de débordement qui sont, à mon avis, la meilleure façon d'aborder ce qu'est un fantôme.
Mais ce qui est remarquable, c'est que vous dressez le panorama de toutes les techniques imaginées par les vivants pour empêcher les morts d'exister après leur décès. En ce moment, au musée du Quai Branly, il y a une exposition consacrée aux zombies. Et ce qui m'a frappé pendant toute la lecture de votre ouvrage, c'est l'oubli. C'est-à-dire que moi, j'aurais plutôt pensé qu'on honorait les morts justement pour rester en lien avec eux, pour les convoquer. Mais non, en fait, on voit que l'humanité, la plupart du temps, préférerait ne plus avoir aucun rapport avec eux.
Oui, ça arrive. Et on a l'impression qu'on est les seuls que les sociétés occidentales aurait choisi d'oublier les morts, que les morts auraient été exclus de notre modernité et qu'on serait coupable de ça presque et que ce serait impossible de faire société vraiment sans donner aux morts une place. En effet, il y a beaucoup de sociétés qui choisissent d'exclure les morts du champ social et tout le rituel funéraire vise à désinstaurer les morts, à les vider de toute qualité subjective de façon à ce qu'ils ne nous foutent la paix, en fait. Hein. Donc c'est le cas, par exemple, dans le nord-ouest de la Mongolie, où j'ai commencé à travailler. En fait, c'était le pire endroit pour travailler sur les relations avec les morts, parce que c'est l'endroit où, justement, les gens ne veulent pas en entendre parler, en fait. Hein. Mais c'est le cas aussi en Amazonie, à certains endroits, dans certaines populations amazoniennes.
Chez certains Roms aussi, dont on doit absolument se débarrasser de tous les objets du mort, voilà. Ne plus jamais citer son
brûler,
nom, la roulotte.
Ouais, brûler sa roulotte. Donc pour les les travelers de l'Angleterre des années 70. Hein, et en effet, à chaque fois, en fait, c'est toutefois jamais totalement de l'oubli. C'est-à-dire que c'est jamais seulement de l'oubli, mais c'est jamais seulement du souvenir. Et c'est là où on pourrait se retrouver un petit peu coincé dans la comparaison des rituels funéraires. Bon, bah, les rituels funéraires, c'est des dispositifs qui visent à oublier un peu le mort, se souvenir un peu le mort, en fait, oublier certains trucs du mort, se souvenir de certains trucs du mort. Il y a des sociétés qui sont hypermnésiques, qui veulent vraiment construire le mort comme un partenaire dont on va célébrer la mémoire pendant des décennies, les Lolopos du sud-ouest du Yunnan, ils font ça. Et il y a des sociétés dans lesquelles, justement, le mort, on veut qu'il disparaisse avant tout. Comme en Mongolie, par exemple.
Et on va détailler quelques rituels funéraires dans un instant, mais après la découverte que vous avez choisie pour les auditeurs.
Pourquoi tu as ouvert le rideau ?
C'était Victor.
Tu as dit à ton petit frère qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre.
C'est vrai !
Arrête, Anne. Qu'est-ce qu'il y a ?
Moi aussi, je les ai vus.
Vous les avez vus ?
Je crois, enfin, il me semble... que le monde de l'au-delà rencontre parfois le monde des vivants.
Il y avait des voix, un petit garçon, il parlait avec deux femmes. Maman, je les ai entendus tous les trois.
Maman, regarde.
On entend la bande-annonce du film Les Autres d'Alejandro Amenábar, sorti en 2001, un des films qui m'a le plus terrifié. Moi qui adore les films d'horreur, et pas pour le surnaturel, mais parce qu'on y voit dedans une pratique qui a été inventée presque en même temps que la photographie des vivants, la photographie des morts mis en scène.
Oui, hein, moi aussi c'est dans ce film que j'ai découvert cette pratique. Bon, j'étais très jeune quand il est sorti, mais je l'ai vu en salle, j'ai fait l'erreur de le voir en salle.
Oui.
Ça m'a coûté quelques nuits de sommeil en effet. Et on voit Nicole Kidman qui découvre un album de photos de cadavres.
Et vous reproduisez là, d'ailleurs dans La Voix des fantômes, ouais, un portrait très troublant d'une jeune femme au
d'une
bouquet.
Jeune femme, ouais. Ben, il est troublant parce qu'en effet, contrairement à la plupart de ces photos de morts qui sont faites donc, au milieu du 19e siècle, beaucoup aux États-Unis, contrairement à la plupart des photos de morts, cette photo est mise en scène comme si la jeune fille était vivante en fait. D'habitude, on les met en scène comme étant vivants, mais endormis en fait. Là, oui, on la met en scène comme voilà, étant éveillée.
Et elle fixe
l'objectif.
Mais avec un œil un peu trouble.
Voilà, quand on regarde attentivement, en fait, on voit que le regard est un peu trouble, le regard est un peu affaissé d'un côté. Et surtout, apparemment, on a du mal à le voir sur la reproduction, mais c'est les fleurs qui signalent que c'est une photo de mort, en fait. Donc c'est étonnant, cette mise en scène, où on a à la fois... un corps qui est maquillé, qui est apprêté de façon à avoir l'air vivant, et un bouquet qui signale qu'en fait elle est morte. Et donc l'intention de cette photo est extrêmement ambiguë, et vraiment ambiguë au sens propre, c'est-à-dire que, enfin, plutôt ambivalente au sens propre, c'est-à-dire qu'on arrive à faire coexister les deux possibilités dans une même image. La personne a été vivante, encore très récemment, et la personne est morte.
Oui. C'est assez troublant.
C'est assez troublant, surtout quand on imagine l'intention.
Oui, alors ça, non, ça, je ne veux pas l'imaginer. Donc, on parlait il y a quelques minutes du fait qu'en fait, on ne pourra jamais savoir, mais il y a des endroits où les fantômes existent, leur existence est admise, comme en Islande, par exemple. Vous citez Christophe Pons qui a travaillé dessus.
Christophe Pons a fait une très très belle enquête dans plusieurs familles islandaises où, quand il disait bon, bah, je suis anthropologue et je travaille sur les fantômes, on le regardait avec des yeux ronds en disant mais. Quel besoin d'aller faire des kilomètres et de venir jusqu'ici pour travailler sur les fantômes. Les fantômes, c'est comme si tu me disais que tu travaillais sur ce saladier sur la table. Je veux dire, ça a une existence aussi patente que tout le reste. Donc oui, bah, si tu veux que je te raconte des histoires de rencontres avec les morts, bah oui, j'en ai rencontré hier.
Et pourquoi est-ce que vous pensez que dans cette région, on ne remet même pas en question leur existence ?
Et bah, c'est intéressant, en fait. Hein, le pourquoi il y a des fantômes à des endroits et pas à d'autres, bon, vous avez parlé tout à l'heure des situations de conflit, des situations où on se sent en fait dans un monde abîmé et où il y a une spectralité plus grande qui enveloppe les vivants. Là, c'est pas le cas. Mais justement, même dans les endroits où il y a eu des conflits, même dans les endroits où justement les fantômes semblent avoir plus de place à cause d'un contexte particulier, en fait, c'est pas les fantômes eux-mêmes qui sont plus présents, c'est juste les vivants qui y accordent plus d'attention et qui sont plus sensibles, qui sont plus désireux aussi d'entrer en relation avec des morts vis-à-vis desquels ils se sentent en délicatesse. Donc les Islandais, eux, ils ont développé une manière d'habiter leur île qui implique une coexistence très proche entre les morts et les vivants.
Se sentir en délicatesse, c'est très joli.
Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines, où des Bretons devinent que Cinca doit dormir tout au fond du brouillard. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. 6 pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort au con, bien plus con que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. 6 pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo.
On reste dans la thématique de l'émission avec vous, Grégory Delaplace, et votre choix musical, Jacques Brel, Jojo, un morceau de 77.
Oui, bah oui, c'est une chanson qui m'émeut beaucoup toujours, et puis c'est une conversation intime avec un mort. Ça m'a semblé approprié.
Bah oui, justement, vous avez procédé à une étude comparée des rituels funéraires et j'aimerais bien qu'on en évoque quelques-uns. Par exemple, il y en a un qui est très beau. En Chine, on récite des poèmes pour parler avec les morts et évidemment, ça a été interdit plus tard. Et vous dites que les morts en ont pris ombrage. Comment ça se manifeste ?
Bah, ça se manifeste, déjà, les morts, ils se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée après la révolution maoïste, puisque il y a des famines qui font qu'on ne peut plus leur faire de sacrifices. Il y a des interdictions d'État qui font qu'on doit réduire les rituels. Ensuite, la révolution culturelle oblige la population à faire ses hommages dans le secret et interdit donc la récitation, la grande récitation collective de poèmes, qui était pourtant ce qui était censé pouvoir émouvoir les morts de façon à ce qu'ils reçoivent les sacrifices et qu'ils se soient convaincus de participer à la régénération des vivants, notamment en copulant dans l'au-delà pour que les enfants vivants puissent naître. Donc il faut arriver à les émouvoir pour en faire des êtres sensibles qui consentiront
à faire ça. Et avec du désir sexuel.
Et avec du désir sexuel, tout à fait.
Alors au Ghana, ce sont chez les Lo Dagaba et les Lo Wili du nord du Ghana, on fait le spectacle de la vie du défunt.
Oui. C'est des cérémonies qui sont extrêmement collectives, qui sont à la fois traversées des expressions de peine très intenses des proches du défunt, mais qui sont aussi l'occasion d'une grande mise en scène, en général à côté du défunt qui est exposé en tant que cadavre sur une scène, et ses proches ou des gens mandatés pour le faire se succèdent en mimant tous les talents du défunt et ce dans quoi il a excellé dans sa vie, en fait. La façon dont il a excellé à la chasse, la façon dont il a excellé dans ses cultures, la façon dont une femme a élevé ses enfants brillamment, a été une amie incomparable. Et donc, il y a à la fois des chants qui visent à des éloges, en fait, mais carrément des mimes qui restituent vraiment la position irremplaçable, en fait, du défunt. En fait, il est irremplaçable et il va falloir le remplacer.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du cannibalisme compassionnel à cet endroit du Brésil où on ne mange pas de la même façon les gens qu'on a aimés et les ennemis ?
C'est beau ça, hein, les Wari, quand Bess Conklin les rencontre dans les années 80, ils sont tristes de devoir désormais enterrer leurs morts, parce que les morts dans la terre, ils sont seuls, ils ont froid. Or, avant, les Wari avaient pour habitude de consommer rituellement la chair de leurs parents, et c'était des rituels très délicats, très complexes, où c'est les parents consanguins qui rassemblaient tous les proches du mort.
Eux n'en mangent pas, les consanguins n'en mangent pas.
Les consanguins n'en mangent pas, et ils invitent les affins, donc les parents par alliance, à venir successivement se servir à la chair boucanée du défunt.
Or, on la cuit tout de même ?
On la cuit, on la boucane.
Pardon, je ne savais pas.
Et le problème, c'est qu'il a fallu attendre plusieurs jours pour organiser la cérémonie. Donc c'est quelque chose de révoltant, d'absolument dégoûtant, qui est considéré comme dégoûtant. C'est un dégoût qu'on surmonte par amour pour le défunt et par compassion pour ses parents. Et il y a toute une métaphysique de la chair chez les Wari, comme dans beaucoup de populations amazoniennes, où notre corps est constitué des relations qui nous ont nourris, en fait. Et donc, votre corps, vraiment la graisse que vous avez accumulée pendant votre vie, retourne aux parents qui l'ont constitué et qui vous ont nourri, et vous nourrissez les parents qui vous ont nourri par votre corps même. Et les parents le consomment avec donc un dégoût surmonté, mais aussi avec parcimonie, respect, contrairement à l'ennemi, qui est mangé comme un pécari, au vu et au su de tous.
Le geste immédiatement perceptible auquel je tiens, c'est en effet le rappel qu'un certain Marx, un certain esprit de Marx, est peut-être mort, mais que son fantôme a beaucoup à nous... Je crois beaucoup à ce qu'on apprend des fantômes. Que son fantôme a encore beaucoup à nous dire, à nous apprendre, et qui a des analyses lors d'inspiration marxiste, pourvu que les précautions critiques soient prises, que les transpositions soient faites, donc au prix d'un grand nombre de précautions. Je crois que on n'a pas le droit, et il ne serait pas juste de croire en avoir fini avec Marx.
Jacques Derrida, interrogé par Laure Adler dans Le Cercle de minuit en 1996. Grégory Delaplace, vous citez en exergue son livre Spectre de Marx, bientôt réédité avec des documents inédits, et dans lequel le philosophe affirme que c'est face aux morts, en étant confronté à leur retour spectral, qu'on peut apprendre à vivre enfin.
C'est une phrase qui est hypnotique, en fait, et qui sert un petit peu de fil rouge au livre. Alors, je me suis servi assez librement à la source d'Héridienne, sans essayer du tout, sans me risquer à essayer de restituer l'ensemble de son œuvre et le sens que pourrait avoir Spectre de Marx en tant qu'œuvre sur le marxisme. Mais par contre, j'ai essayé de déplier autant que possible, et il y a plein de façons de la déplier, en fait, c'est une idée. Donc, de déplier autant que possible cette idée que ce n'est que face aux morts et dans la confrontation entre les vivants et les morts qu'on peut apprendre à vivre enfin. Ça me semble être une idée, en fait, d'une profondeur qui nécessite d'être toujours reconsidéré, toujours remédité, en fait. Et donc, c'est, en fait, tout le livre peut être vu comme une méditation sur cette phrase, que ce n'est que dans la confrontation entre les vivants et les morts qu'on peut apprendre à vivre, enfin.
Et on peut s'y confronter ?
On n'a pas le choix.
Bon ben, on va terminer alors sur cette bonne nouvelle. En un mot, votre futur projet, est-ce que c'est bien un livre sur le poltergeist ?
C'est ça, c'est un livre sur le poltergeist et donc sur la magie. Comment on peut être capable d'agir à distance, de faire bouger les meubles d'une maison sans les toucher.
Il y aura des chapeaux de magiciens ?
A priori, non,
non.
Justement.
Bon, écoutez, appelez-moi si vous avez besoin.
Ça marche.
Merci beaucoup, Grégory Delaplace. Je rappelle que La Voix des fantômes, quand débordent les morts, est parue le 13 septembre aux éditions du Seuil. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Clément Berman. À demain, 20h10.